Edmond Haraucourt, le centenaire. L'auberge était modeste, mais le déjeuner fort acceptable. L'air vif de la montagne et 4 heures d'automobile, le hasard des chemins, m'avaient bien préparé à l'omelette au lard. Et je l'avoue, quand vient le mois où il m'est permis de retourner à l'air libre, pour récurer mes poumons et pour rincer ma mémoire, je n'aime pas vos hôtels citadins qui me rappellent tout ce que je viens d'oublier, qui banalisent l'univers. Je n'aime pas vos maisons, vos recommandés, vos maîtres d'hôtel en uniforme, votre salle à manger internationale, vos sites étiquetés, vos enthousiasmes numérotés. Cet amour en commun dont vous poursuivez le paysage ressemble à la prostitution dont vous représentez les vies. J'en ai horreur plus que du boulevard qu'il parodie, qui exagère. Et je m'en vais, triste, seul, à la fortune du pot, conduisant moi-même mon auto. Quand le site me plaît, je m'arrête et nous devisons. Je l'aime pour mon compte, à bon gré, sans avis préalable, ni présence importune. Vous n'avez pas l'idée du nombre de beautés que la nature vous réserve. Pour ces véritables amants, à l'insu des guides et des touristes. Avec le café, l'hôte me proposa son eau de vie, qu'il déclarait admirable. Ah, merci, je ne bois pas d'alcool. Et il éclata de rire. Et vous croyez que ça vous fait du mal, vous ? Oh, je sais bien, dans votre Paris, on prétend ça, mais c'est pas ici qu'il faut venir nous compter des bourdes pareilles. Nous avons de quoi vous répondre. Et comme je ne répondais pas, il reprit. Mais l'alcool est rien de tel pour conserver un chrétien. Pas vrai, ma femme ? Tous deux, c'est beau dire. Et le mâle ajouta. Aussi vrai que je vous parle, nous avons ici un gaillard de 104 ans. Oui, monsieur, 104 ans. Son fils vous le dira. Et la barbe lui pousse encore au menton. C'est l'alcool qui a tout fait ça. À preuve qu'il ne prend rien d'autre depuis une pièce de 20 années. Mais il en prend sa part, je vous prie de le croire. Pas vrai, ma femme ? Oh, sûr, il en prend sa part. Un phénomène, quoi. Oh, vous devriez voir ça. Je ne veux pas vous dire, mais vous ne retraiterez point ici de contribuable. Foi de contribuable, je peux bien arranger l'affaire. Si vous avez le temps, avec l'auto, ça fera 5 minutes. J'objectais que les centenaires sont extrêmement rares, ne sont plus extrêmement rares. Bon, de cet acabit-là, vous n'en sortirez guère. Allez, ça va être l'heure où son fils va le voir. Vous ne regretterez pas que je vous le dis. Allez, faut le voyage. Mais déranger une famille, je crains d'être indiscret. Déranger, indiscret, et vous ferez plaisir au contraire. Pas vrai, ma femme ? Oh, sûr qu'il est flatté et fier, monsieur Nicolas, quand on rend visite à son père. Le couple échangeait des regards mystérieux. Et puis donnez, c'est bien simple. Finissez votre café, je reviens. L'homme s'évada et revint en effet après une courte absence. Un homme l'accompagnait, petit bourgeois, tout habillé de brun, sévère et incolore, sans âge, mais plus que mûr. Assez maigre, avec des yeux morts, perdus au fond de deux trous broussailleux. Voilà, fit l'aubergiste, monsieur Nicolas, il est content de vous conduire. Je lui avais dit que vous êtes un savant à Paris. Il n'a pas fait de façon. N'est-ce pas, monsieur Nicolas, que vous êtes bien aise qu'on aille voir avec vous votre père? Le petit homme s'alleva en signe d'acquiescement et formula de vagues excuses sur mon indiscrétion. Mais on n'a aucune, monsieur. Vous avez l'air honorable, sérieux. Mon père n'aimerait pas recevoir des farceurs. Et je ne lui imposerai pas ça, cet ennui. Mais puisque vous êtes un savant, vous serez le bienvenu. Le style et le ton n'étaient pas ceux d'un campagnard, et ses gestes pas davantage. L'homme avait plutôt l'air d'un curé de faubourg ou d'un pasteur modeste, et sa parole était quelque peu sentencieuse. Et il ajouta, « Si vous voulez bien, monsieur, nous partirons. Car c'est l'heure où je ne voudrais pas faire attendre mon père. » Nous partîmes. L'hôtelier, sans autre invitation, était monté dans ma voiture. Droit devant vous et à gauche, juste en vue du cimetière. La maison est contre le mur. Du cimetière? Oui, tout contre le mur, riposta l'aubergiste, qui décidément était gai. Et comme ça, la route sera quasiment faite quand il lui faudra qu'il change de domicile. N'est-ce pas, monsieur Nicolas? Le petit bourgeois ne parut pas goûter la plaisanterie et pas davantage s'en choquer. Il tourna vers notre rieur l'impassible visage des gens auxquels échappent les intentions comiques. J'étais un peu gêné. J'ai voulu placer un mot plus convenable. « Monsieur, votre père ne trouve pas que votre voisinage soit attristant ?»« Pas du tout, monsieur. La mort n'existe pas. » Et mon père le sait mieux que moi. Il avait posé cette affirmation d'une voix sûre et qui ne prévoyait pas de réplique. Avec une lenteur d'automate, il inspecta le ciel d'un coup d'œil circulaire et reprit. La mort est un préjugé, comme vous avez peut-être une croyance que les gens ont prise peu à peu, à force d'en entendre parler, et qui s'est répandue par habitude. On aurait bien du mal, monsieur, à tirer cette idée-là fausse aux hommes. Et il faudra du temps, de la patience, et puis du progrès, pour qu'on en arrive à comprendre que la mort n'existe pas. L'aubergiste, en clignant des paupières, me signifiait ses confidences. Hein? Et c'est assez drôle. Je vous l'avais promis, mais attendez la suite. Nous arrivions. Le grand mur nu du cimetière s'allongeait vers la gauche, et quand nous l'eûmes dépassé, on me fit signe d'arrêter la voiture. C'est ici, un clos rectangulaire entouré de murailles s'ouvrait par une grille en fer. Je fus étonné de voir que M. Nicolas tirait de sa poche une clé. Le vieillard était donc enfermé. En face de nous, une maisonnette basse, sans étage, sévèrement construite en pierre de taille, avait un air bizarre de pavillon ou de chapelle. Tous les volets en étaient clos. En arrière, à droite et à gauche, on apercevait, par-dessus la cime du mur, les lys du cimetière auquel la maison s'adossait. En avant, un jardin tout garni de fleurettes, bien soigné, se découpait par petits carrés entre les allées propres, mais si étroites que deux personnes n'auraient pas pu marcher de front. C'est que mon père, monsieur, est tout pour moi, il est tout. Il aura fait ce que je suis, ce que je suis. Oui, j'étais son fils unique. Il avait 40 ans lorsque je vins au monde. Dès lors, il n'a eu qu'un seul but dans la vie, me préparer une existence heureuse. Il m'a dorloté, choyé, et dominé de donner beaucoup d'éducation. Il a travaillé pour moi. Et ces petites rentes que j'ai sont le fruit de son travail. Il me le répétait souvent quand il n'était pas plus jeune. « C'est pour toi, mon garçon. » Il a pris la peine afin que j'aie le plaisir. Alors vous comprenez, dans ces conditions, je ne me suis pas marié pour être tout à lui. Ce qu'il a fait pour moi, je le fais pour lui maintenant, qu'il ne doit plus peiner. Il se repose, et c'est bien son tour. Moi, je viens, et c'est bien justice, n'est-ce pas, monsieur ? Lorsque nous fûmes au seuil du pavillon, M. Nicolas prit une autre clé dans sa poche. Ah, le vieillard était donc véritablement enfermé. Au fait, il avait peut-être une double clé. Mais quoi ? Vivait-il donc dans cette nuit ? L'antichambre exiguë donnait accès dans une salle assez vaste et complètement obscure. Très mince filet de clarté filait à travers les volets clos. Et en entrant, M. Nicolas se découvrit. « Mon père, je vous amène une visite. » Puis il alla ouvrir l'un après l'autre les volets fermés. La chambre était vide. Tout en faisant jouer les crochets et les espagnolettes, Nicolas continuait. Ce monsieur que je vous amène est un savant de Paris qui a passé en promenade et qui a désiré vous voir. Je cherchais vainement le centenaire et je ne découvrais dans la chambre qu'une table ronde, deux chaises, un banc de pierre qui s'allongeait perpendiculairement sur un poêle. Une poêle en fonte, une échelle de bibliothèque et des rayons chargés de livres qui montaient jusqu'à la voûte. Je remarquai aussi un violon posé sur la table. « Monsieur, votre père fait de la musique ?»« Non, moi je la fais. Lui, il l'aime. » J'avais risqué ces questions par vague politesse, et afin de combler une minute, pendant que M. Nicolas ne remarquait point l'absence de son père. Mais il me prit par le coude et il me conduisit vers le banc de pierre en disant « Bien le voici !» Alors devant moi, au chevet du banc, et dans son épaisseur, je vis sous la glace d'un cadre la face d'un mort. Ce que j'avais pris pour un banc était un sarcophage plat percé d'une lucarne, et du cadavre qui gisait dans l'intérieur, on apercevait par ce trou qu'une face creuse, cireuse, sinistrement mobile, au fond d'un bain d'ombre liquide. « Mais il est dans l'alcool, » dit l'aubergiste. « Et ça va faire 25 ans passés. » M. Nicolas me prit à part et m'entraîna dans un couloir. Puis à voix basse et rapide, « Vous excuserez, mon père, si sa barbe n'est pas faite. » J'avais laissé à la suite ce que les gens appellent son décès, mais sa barbe repousse et je ne veux pas l'ennuyer pour cette bagatelle. Des poils drus, en effet, hérissaient le visage du mort, long d'un centimètre et couleur de poussière. « Oui, monsieur, voilà 22 ans que mon père habite ici. » Oh, j'en avais 80 quand je lui ai bâti cette petite maison de retraite. J'ai cru bien faire en consacrant à cela une part de son avoir. Oh, il ne partageait pas complètement mon avis, parce que vous savez, il veut tout pour moi, il voulait tout pour moi, rien que pour moi. Mais il est bien ici et tranquille. Je viens tous les jours passer quelques heures avec lui. Je lui lis régulièrement les journaux, ce qui l'aurait intéressé, et des livres qu'il a en nombre, comme vous voyez. Il a toujours adoré la lecture, mais ce qu'il préfère encore, c'est la musique. Je commence toujours par la musique. Vous permettez ? Il prit le violon sur la table et se mit à l'accorder. « Regardez-le pendant que je joue. Vous serez étonné de la figure et du plaisir que les beaux passages lui font. Il se transforme véritablement. Regardez !» M. Nicolas préludait par une sonate grave avec un talent médiocre. Je contemplais la masque du défunt, inerte et lugubre dans son bain de divers ténèbres, il me semblait que les notes pleurardes du violon retombait de la voûte humide en pluie d'angoisse. Mes vêtements, peu à peu, s'imprégnaient d'une atmosphère visqueuse, folle, et je sentais ma peau s'engluer, comme d'avoir plongé avec mes regards dans le sirop cadavéreux. Et tout à coup, le violoniste lança son archet et attaqua une séguédille ensoleillée. « C'est maintenant !» cria-t-il. « Regardez ses mines, il va rire !» Et il riait lui-même, et cette gaieté macabre fut bien longue à subir, enfin. Le dernier pizzicato s'éteignit, et j'en profitais. « Oh, monsieur, je crains d'abuser. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'admettre dans votre intimité. » Oh, il était radieux. Ainsi vous avez vu, la mort n'existe pas. Oh, je vous suis fort reconnaissant. Mais pas du tout, monsieur. Mon père était ravi de vous recevoir. Oh, s'il peut vous être agréable que je vous ramène en voiture. Non, non, je vais lui lire son journal. Il l'attend. Au plaisir, monsieur. Je crus bien faire en saluant le mort avec cérémonie, et ce geste plut à monsieur Nicolas. Il nous reconduisit jusqu'à la grille, entre deux haies de fleurs tremblantes, qui sentaient bon la vie, et derrière moi, il donna le tour de clé et s'en retourna. Fit l'aubergiste. Je vous le disais, c'est-il vrai que l'alcool conserve ?